La rosée.
Une émission culture et pas que. On y parlera théâtre, on parlera musique, on fera le tour des lieux et des événements. Il y aura des invités, du live, tous les troisièmes lundis du mois, à partir de 16h30 et jusqu'à 18h, sur Radio Galère 88.4.
Et bienvenue sur La Rosée. Bienvenue sur La Rosée. Cette musique vous fait peut-être penser que nous allons vivre une aventure épique, une aventure merveilleuse, une aventure pleine d'action. Eh bien oui. Enfin, nous allons en vivre plusieurs, mesdames et messieurs, mes chers auditeurs et auditrices, comme l'aiment si bien dire Avicenne et Boris. Eh bien, nous allons en écouter plein, plusieurs, et ces histoires seront parfois chatoyantes, parfois tristes, parfois joyeuses, parfois profondes, parfois beaucoup moins. Non, je ne sais pas, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, mais ça va être un truc très sympathique, et je vais baisser cette musique qui me permettra de parler un petit peu moins fort et d'être plus avec vous, mes chers amis. Alors, ça fait plaisir d'être là en plein confinement, je suis seul, mais peut-être que je vais être rejoint par des fantômes, des êtres humains, des animaux, des esprits. À vous de voir, à vous d'interpréter. Désormais, place à quelque chose que je ne saurais définir. Je tiens à vous informer que Jacques Prévert va être parmi nous et plusieurs fois il va se permettre de s'introduire dans l'émission et nous allons être accompagnés par plusieurs de ses poèmes parce qu'il n'y a rien à dire, quoi. Donc le premier poème de Jacques Prévert, le voici. Pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois, ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite. Mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider, ne pas se décourager, attendre, attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il y est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux en ayant pris soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Puis attendre que l'oiseau se décide à chanter.
Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais.
Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Tout de suite, après avoir écouté ce texte de Jacques Prévert, nous allons écouter Marcel Proust qui nous explique à quel point la lecture est merveilleuse. Et il nous l'explique en utilisant des mots, mais pourtant aucune pensée ne vient, seulement des images. Et beaucoup, 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 beaucoup d'images. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre. Ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de sur la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter, que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher,
tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer, et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu, tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité. Elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que, s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous avons gardés des jours enfouis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Après le déjeuner, ma lecture reprenait tout de suite, surtout si la journée était un peu chaude, on montait se retirer dans sa chambre, ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches rapprochées, de gagner tout de suite la mienne, à l'unique étage si bas que des fenêtres enjambées, on n'aurait eu qu'un saut d'enfant à faire pour se trouver dans la rue. J'allais fermer ma fenêtre, sans avoir pu esquiver le salut de l'armurier d'en face qui, sous prétexte de baisser ses auvents, venait tous les jours après déjeuner fumer sa cigarette devant sa porte et dire bonjour aux passants qui parfois s'arrêtaient à causer. Les théories de William Morris, qui ont été si constamment appliquées par Maple et les décorateurs anglais, édictent qu'une chambre n'est belle qu'à la condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles et que toute chose utile, fût-ce un simple clou, soit non pas dissimulée, mais apparente. Au-dessus du lit à tringles de cuivre et entièrement découvert, au mur nu de ces chambres hygiéniques, quelques reproductions de chefs-d'œuvre. À la juger d'après les principes de cette esthétique, ma chambre n'était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c'était justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient au regard le lit placé comme au fond d'un sanctuaire, la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes pointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de thé d'oreiller en batiste, sous laquelle disparaissait le jour, comme un autel au mois de Marie sous les festons et les fleurs, et que, le soir, pour pouvoir me coucher, j'allais poser avec précaution sur un fauteuil où il consentait à passer la nuit. À côté du lit, la trinité du verre à dessin bleu, du sucrier, pareil, et de la carafe, toujours vide, depuis le lendemain de mon arrivée, sur l'ordre de ma tante qui craignait de me la voir répandre. Sorte d'instrument du culte, presque aussi sain que la précieuse liqueur de fleurs d'oranger placée près d'eux dans une ampoule de verre, que je n'aurais pas cru plus permis de profaner ni même possible d'utiliser pour mon usage personnel que si ça avait été des ciboires consacrés, mais que je considérais longuement avant de me déshabiller, dans la peur de les renverser par un faux mouvement. Ces petites étoles ajourées au crochet qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de rose blanche qui ne devait pas être sans épines, puisque chaque fois que j'avais fini de lire et que je voulais me lever, je m'apercevais que j'y étais resté accroché. Cette cloche de verre, sous laquelle, isolée des contacts vulgaires, la pendule bavardait dans l'intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale, mais qui était si lourde à soulever que, quand la pendule s'arrêtait, personne, excepté l'horloger, n'aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remonter. Cette blanche nappe en guipure qui, jetée comme un revêtement d'autel sur la commode ornée de deux vases, d'une image du Sauveur et d'un buis béni, la faisait ressembler à la sainte table, dont un prie-Dieu, rangé là tous les jours, quand on avait fini la chambre, achevait d'évoquer l'idée, mais dont les effilochements toujours engagés dans la pente des tiroirs en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d'un seul coup image du Sauveur, vase sacré, buis béni, et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prie-Dieu. Cette triple superposition, enfin, de petits rideaux d'étamine, de grands rideaux de mousseline et de plus grands rideaux de basin, toujours souriants dans leur blancheur d'aubépine souvent ensoleillée, mais au fond bien agaçants dans leur maladresse et leur entêtement à jouer autour de leurs barres de bois parallèles et à se prendre les uns dans les autres, et tous dans la fenêtre dès que je voulais l'ouvrir ou la fermer. Un second étant toujours prêt, si je parvenais à en dégager un premier, à venir prendre immédiatement sa place dans les jointures aussi parfaitement bouchées par eux qu'elles l'eussent été par un buisson d'aubépine réel ou par des nids d'hirondelles qui auraient eu la fantaisie de s'installer là, de sorte que cette opération, en apparence si simple, d'ouvrir ou de fermer ma croisée, je n'en venais jamais à bout sans le secours de quelqu'un de la maison. Toutes ces choses, qui non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins, mais apportaient même une entrave,
d'ailleurs légère à leur satisfaction, qui évidemment n'avait jamais été mise là pour l'utilité de quelqu'un, peuplait ma chambre de pensées en quelque sorte personnelles, avec cet air de prédilection d'avoir choisi de vivre là, et de s'y plaire, comme souvent dans une clairière, les arbres, et, au bord des chemins ou sur les vieux murs, les fleurs. Elle la remplissait d'une vie silencieuse et diverse, d'un mystère où ma personne se trouvait à la fois perdue et charmée. Elle faisait de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil, quand il traversait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres, piquait sur les murs, après avoir rosé l'aubépine des rideaux, des lueurs aussi étranges que si la petite chapelle avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux, et où le bruit des cloches arrivait si retentissant à cause de la proximité de notre maison et de l'église, à laquelle d'ailleurs, aux grandes fêtes, le reposoir nous liait par un chemin de fleurs que je pouvais imaginer qu'elles étaient sonnées dans notre toit. Juste au-dessus de la fenêtre d'où je saluais souvent le curé, tenant son bréviaire, ma tante revenant de Vêpres ou l'enfant de cœur qui nous portait du pain béni. Quant à la photographie par Brown du printemps de Botticelli ou au moulage de la femme inconnue du musée de Lille, qui au mur et sur la cheminée des chambres de Maple sont la part concédée par William Morris à l'inutile beauté, je dois avouer qu'ils étaient remplacés dans ma chambre par une sorte de gravure représentant le prince Eugène, terrible et beau dans son dolman, et que je fus très étonné d'apercevoir une nuit, dans un grand fracas de locomotives et de grêle, toujours terrible et beau, à la porte d'un buffet de gare où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. Je soupçonne aujourd'hui mon grand-père de l'avoir autrefois reçu comme prime de la munificence d'un fabricant avant de l'installer à jamais dans ma chambre. Mais alors je ne me souciais pas de son origine qui me paraissait historique et mystérieuse et je n'imaginais pas qu'il pût y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne, comme un habitant permanent de la chambre que je ne faisais que partager avec lui et où je le retrouvais tous les ans, toujours pareil à lui-même. Il y a maintenant bien longtemps que je ne l'ai vu et je suppose que je ne le reverrai jamais. Mais si une telle fortune m'advenait, je crois qu'il aurait bien plus de choses à me dire que le printemps de Botticelli. Je laisse les gens de goût orner leur demeure avec la reproduction des chefs-d'œuvre qu'ils admirent et décharger leur mémoire du soin de leur conserver une image précieuse en la confiant à un cadre de bois sculpté. Je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût et la remplir seulement des choses qu'ils puissent approuver. Pour moi, je ne me sens vivre et penser que dans une chambre où tout est la création et le langage de vie profondément différente de la mienne, d'un goût opposé au mien, où je ne retrouve rien de ma pensée consciente, où mon imagination s'exalte en se sentant plongée au sein du non-moi. Je ne me sens heureux qu'en mettant le pied, avenue de la gare, sur le port ou place de l'église, dans un de ces hôtels de province aux longs corridors froids, où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement des murs, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver mais n'efface pas, et que les narines aspirent 100 fois pour l'apporter à l'imagination qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle avec tout ce qu'il contient de pensées et de souvenirs. Où le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui y est restée éparse, de la prendre hardiment par la main quand, la porte refermée, on entre plus avant, jusqu'à la table ou jusqu'à la fenêtre, de s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle sur le canapé exécuté par le tapissier du chef-lieu, sans, dans ce qu'il croyait le goût de Paris, de toucher partout la nudité de cette vie, dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité, en posant ici et là ses affaires, en jouant le maître dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres, et qui garde jusque dans la forme déchaînée et le dessin des rideaux l'empreinte de leurs rêves. En marchant pieds nus sur des tapis inconnus. Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va, tout tremblant, tirer le verrou, de la pousser devant soi dans le lit et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure tandis que, tout près, l'église sonne pour toute la ville les heures d'insomnie des mourants et des amoureux. Nous pouvons dire merci à Marcel Proust. Et maintenant, nous pouvons également applaudir Jacques Prévert, qui va s'introduire dans nos vies, avec un poème qui s'appelle Fleurs et couronnes, et qui est un poème très puissant, qui met à bas
la plus grande des idoles.
Fleurs et couronnes. Homme, tu as regardé la plus triste, la plus morne de toutes les fleurs de la terre, et comme aux autres fleurs, tu lui as donné un nom. Tu l'as appelé pensée. Pensée. C'était comme on dit bien observé, bien pensé. Et ces sales fleurs qui ne vivent ni ne se fanent jamais, tu les as appelées immortelles. C'était bien fait pour elles. Mais le lilas, tu l'as appelé lilas. Lilas, c'était tout à fait ça. Lilas. Lilas. Aux marguerites, tu as donné un nom de femme. Ou bien aux femmes, tu as donné un nom de fleur, c'est pareil. L'essentiel, c'était que ce soit joli, que ça fasse plaisir. Enfin, tu as donné les noms simples à toutes les fleurs simples. Et la plus grande, la plus belle, celle qui pousse toute droite sur le fumier de la misère, celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés, à côté des vieux chiens mouillés, à côté des vieux matelas éventrés, à côté des baraques de planches où vivent les sous-alimentés. Cette fleur tellement vivante, toute jaune, toute brillante, celle que les savants appellent Héliante. Toi, tu l'as appelé soleil. Soleil. Hélas, 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 c'est beaucoup de fois, hélas. Qui regarde le soleil, hein? Qui regarde le soleil? Personne ne regarde plus le soleil. Les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus. Des hommes intelligents. Une fleur cancéreuse, tubéreuse et méticuleuse à leur boutonnière. Ils se promènent en regardant par terre et ils pensent au ciel. Ils pensent, ils pensent. Ils n'arrêtent pas de penser. Ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes. Ils aiment les fleurs fanées, les fleurs séchées, les immortelles et les pensées. Et ils marchent dans la boue des souvenirs, dans la boue des regrets. Ils se traînent à grand-peine dans les marécages du passé. Et ils traînent leurs chaînes. Et ils traînent les pieds opaques à danser. Ils avancent à grand-peine enlisés dans leurs Champs-Élysées. Et ils chantent à tue-tête la chanson mortuaire. Oui, ils chantent à tue-tête. Mais tout ce qui est mort dans leur tête, pour rien au monde, ils ne voudraient l'enlever. Parce que dans leur tête pousse la fleur sacrée, la sale maigre petite fleur, la fleur malade, la fleur aigre, la fleur toujours fanée, la fleur personnelle, la pensée. Dans le prochain texte qui va être lu, c'est un extrait du Hussard sur le toit de Jean Giono qui parle de en tout cas qui se passe pendant la peste, le choléra de 1820 à peu près au sud de la France, vers Marseille, enfin, mais ça se passe pas à Marseille. Et c'est un très beau texte parce que ça parle justement de comment très simplement on peut passer de la mort à la vie, on peut revenir à la vie. Pas comme Jésus, hein, mais... Et c'est un texte que je trouve merveilleux. On n'embrassait plus les enfants. Pas pour les préserver, pour se préserver. Ils avaient tous d'ailleurs une attitude raidie, tout d'une pièce, de larges yeux, et quand ils mouraient, c'était sans un mot ni un gémissement, et toujours loin de leur maison, fourrés dans une niche à chiens ou dans des garennes, des caisses à lapins, ou roulés dans les gros paniers à faire couver les dindes. Souvent la nonne leur faisait la chasse. Elle ouvrait les poulaillers et cherchait. Elle frappait du pied contre les parois des niches, le chien montrait une tête hargneuse, elle le saisissait froidement par le collier. L'enfant était généralement au fond. Elle le tirait sans trop de cérémonie, mais l'emportait exactement comme une mère doit emporter un enfant. Les petits cadavres étaient semblables aux cadavres des grandes personnes, c'est-à-dire d'une indécence ridicule, criant de vérité, déchirant de leurs ongles leur ventre, leur capitale d'immondices. Dans les bras de la nonne, ils redevenaient de pauvres petits-enfants, morts de grosses coliques. Au moment où l'on se demandait s'il fallait encore croire à quelque chose, si elle arrivait, les murs redevenaient des murs, les chambres des chambres, avec toutes leurs stalactites de souvenirs intacts, avec leur puissance d'abri intacte. La mort ? Eh bien oui, mais Elle perdait instantanément son côté diabolique. Elle ne poussait plus à s'affranchir de tout. Elle ne faisait plus franchir que des frontières raisonnables. On ne pouvait plus se permettre ces convulsions d'égoïsme dans lesquelles, la plupart du temps, les vivants reproduisaient, par une sorte de singerie luciférienne, les convulsions d'agonie dont ils avaient eu le spectacle. Il suffisait de quelques gestes très simples. On aurait beaucoup surpris la nonne si on lui avait dit que les deux tiers de sa qualité venaient de son aspect physique, de son gros ventre de gargamel, de la moue de ses grosses lèvres, de sa grosse tête, de ses grosses mains, de sa placidité de grosse femme, de ses gros pieds sous lesquels les planchers tremblaient toujours un peu. C'est cette masse qui autorisait les miracles. Plus vive, elle aurait eu la facilité de faire 20 gestes dans lesquels le bon aurait peut-être passé inaperçu. La graisse, la lourdeur, le poids ne lui permettaient d'en faire qu'un. C'était le bon. Et il était là, incontestable, comme le nez au milieu de la figure. On était obligé de croire à sa vertu, car c'était un vieux geste ordinaire qu'on avait fait 100 000 fois et dont les conséquences étaient certaines. Elle arrivait, et il y avait parfois un ou deux cadavres étendus dans ces atroces poses cocasses. Les cuisses écartées, les mains fourrées dans le ventre, la tête rejetée en arrière dans ce grand rire blanc et pourpre des colériques. Quelquefois même, ces cadavres avaient comme bondi à travers la chambre et s'étaient abattus en travers de n'importe quel meuble. Il y avait, caché dans des coins ou de préférence dans des encoignures de fenêtres, le désir de fuite, un homme ou une femme changé en chien, en train de gémir, de tousser, d'aboyer, prêt à flatter le premier venu. Un ou deux enfants, raides comme la justice, les yeux comme des œufs, et elle entrait. Souvent, quand le spectacle était comme cela, horrible à râper la peau, voilà ce qu'elle faisait. Elle s'asseyait, plaçait le moulin à café entre ses cuisses et commençait à moudre le café. Instantanément, l'homme ou la femme cessait d'être le chien. Pour les enfants, c'était à la fois plus délicat et plus facile. Ils étaient tout de suite attirés par l'énorme poitrine de la nonne. Elle avait alors un geste très simple pour pousser sa croix pectorale de côté. D'autres fois, mais toujours de science exacte et sans jamais se tromper, il ne s'agissait pas de moulin à café. Elle entrait dans une de ces maisons bourgeoises où la cuisine est cachée, où tous les meubles sont sous des housses. C'était toujours des endroits où les cadavres avaient un extraordinaire mordant. Là, d'ordinaire, on n'avait pas entouré les malades de beaucoup de soins. Généralement, on n'avait pas eu le courage de les contenir dans les lits. On les avait laissés se lever et divaguer. On avait plutôt fui devant eux. Les fauteuils étaient renversés comme après une bagarre. Les tables n'étaient plus sous l'aplomb de la suspension. Le pupitre à musique était cassé. On s'était comme jeté les partitions de valse à la tête. Le mort avait ruisselé de tous les côtés avant de s'abattre sur le piano. Dans l'instant où Angelo passait la porte, il se disait « Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ?» Par-dessus l'épaule de la nonne, il voyait cet intérieur bourgeois charrué pour de terribles semences et les survivants agglomérés dans un coin du salon, comme de petits singes saisis par le froid. Tout de suite, la nonne tirait la table à son aplomb, relevait les chaises, plaçait les fauteuils, ramassait les morceaux de musique. Elle ouvrait une porte qui donnait dans la chambre. Elle demandait « Où sont les draps neufs ?» Ces mots étaient magiques. Ils lui donnaient la plus fulgurante des victoires. Pas plus tôt prononcée, on entendait dans le tas des singes glacés le bruit d'un trousseau de clés. Ce bruit lui-même avait une vertu si puissante qu'on voyait sortir du tas une femme qui redevenait tout de suite femme et tout de suite patronne. Quelques-unes, parmi celles dont le visage était plus particulièrement recouvert de cheveux éplorés, titubaient encore un peu et allaient, dans leur ivresse, jusqu'à tendre le trousseau de clés. Mais la nonne ne le prenait jamais. « Venez ouvrir l'armoire vous-même, » disait-elle. Après, on faisait le lit bien carré. Ce n'est qu'une fois le lit bien fait qu'on s'occupait du cadavre. Et alors, en plein. Mais déjà, les rouages de la maison s'étaient remis en marche. Et déjà, la mort pouvait frapper de nouveau un coup diabolique dans cette famille, sans rien détruire d'essentiel.
Maintenant,
maintenant un autre poème de Jacques Prévert qui s'appelle Chasse à l'enfant et qui fera écho au texte suivant, au texte qui va suivre ce poème. C'est un poème plutôt sombre, plutôt triste, mais qui résonne encore aujourd'hui. Chasse à l'enfant.
Bandits, voyous, voleurs, chenapans!
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Bandits, voyous, voleurs, chenapans!
Qu'est-ce que c'est que ces hurlements?
Bandits, voyous, voleurs, chenapans!
C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents, et puis ils l'avaient laissé étendu sur le ciment.
Bandits, voyous, voleurs, chenapans!
Maintenant, il s'est sauvé, et comme une bête traquée, il galope dans la nuit, et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes.
Bandits, voyous, voleurs, chenapans!
C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Rejoindras-tu le continent? Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
J'ai choisi de lire ce poème, c'est parce que je trouvais qu'il était en résonance avec le texte de Pierre Clémenti qui va être lu ensuite. Et Pierre Clémenti, c'est un acteur français qui a joué dans des films français et italiens dans les années 70 et 60, et puis après aussi. Et c'est un acteur très sensible, mais en fait, il est allé en prison en 1971 en Italie parce que on a retrouvé de la drogue chez lui. Alors lui, il a démenti, il dit que c'est pas vrai, mais dans tous les cas, c'est pas très important. À l'époque, le système italien, il était très violent, c'est-à-dire qu'on pouvait passer jusqu'à 2 ans en attente de procès, en prison, sans sortir. Et ensuite, lorsqu'on prenait la sentence du procès, si on était coupable, eh bien, par exemple, si on prenait 2 ans, eh bien, même si on avait déjà attendu 2 ans, on reprenait 2 ans. C'est quand même quelque chose de très violent, et lui, il a passé donc 2 ans en prison. Et il a écrit un livre autour de ça, et c'est un chapitre exceptionnel. En tout cas, c'est mon préféré.
Une bouée vers l'inconnu. Mon autre voisin de cellule était un peintre. Ou plutôt, il peignait. Après le cachot, j'avais conquis le droit à quelques égards. Et la bonne règle des prisons veut que, passé les premiers mois, 2 ou 3 selon le sujet, le régime qui t'a octroyé s'adoucisse. La période d'observation, où l'on te laisse te débattre avec toi-même, coincé dans le ciment, muré dans le silence, où d'éminents experts en désespoir testent tes défenses, fait place à un climat plus tempéré. Ayant passé l'épreuve de l'initiation, tu es admis dans le cercle de la routine carcérale. Ton statut se banalise. Le fil ténu de la confiance te lie chaque jour davantage aux autres prisonniers, aux gardiens eux-mêmes. On sait que tu as franchi le cap et que, sauf accident, on peut compter que tu boiras ta purge jusqu'à la dernière goutte. Te voilà membre de l'immense famille. Tu en es solidaire. Tu n'attireras pas sur elle les représailles des puissants. Tu n'iras pas trahir les secrets qu'elle partage avec toi. Les visages s'ouvrent à ton passage. Tu deviens le nouveau confesseur de confidences 1000 fois dites et qui puise un regain de fraîcheur dans ta qualité de novice. Tu les entends, toi, pour la première fois. Tes voisins viennent te parler. Les compagnons de tes promenades déroulent devant tes yeux la scène de leur vie. La promenade, il faut dire qu'elle s'est allongée. 2 heures au lieu des 40 minutes concédées au départ. 3 fois plus de pas, le temps d'en savoir plus. Il y a des jours où je suis de bonne humeur. Des jours où je fais la gueule. Je sais pas pourquoi. À cette voix qui poursuit la litanie des mots quotidiens, que répondre? Peut-être que c'est le sommeil, les rêves, tu sais, ça m'arrive encore de rêver. Je ne sais pas de quoi le rêve revient au mec qui a pris mon bras pour quelques pas dans la cour. De sa femme, Du crime qui l'a mené là? Du jour de sa liberté? Quand tu rentres dans un bistrot, il faut que tu payes. Tu ne peux pas t'en tirer autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il leur faut avant tout parler. Marcher en aspirant de toutes ses forces, en même temps que l'oxygène, les senteurs de la ville qui planent jusqu'ici, ne suffit pas. La cour est traversée par les appels et les réponses. Comment va le procès? Giustizia di merda! Et l'avocat? Va fare in culo l'avvocato! Ravi, tu entends sonner les injures de la langue italienne. Même si tu ne prends qu'un café, tu ne peux pas ne pas payer. Tu peux entrer dans un bistrot et commander un café. Tu regardes le mec qui boit à côté de toi. Tu regardes dans les yeux. Et il te paie le café. J'ai traîné à Saint-Germain. Je ramassais des clopes dans la rue pour les fumer. Un jour, un mec m'aborde. Viens, on a besoin de toi. Je suis sûr que tu seras bien. Je l'ai suivi dans une grande maison où des types en costume du Moyen-Âge répétaient une pièce. C'était procès aux Templiers. L'un d'eux est venu vers moi. Les autres continuent à jouer. Il m'a regardé dans les yeux. Moi aussi. Et dans ce regard est née une longue amitié. Tu t'appelles? Pierre Clementi. Moi, c'est Jean-Pierre Calfon. Tu veux faire du théâtre? Viens, je vais te montrer. Le prisonnier, Giuseppe, mais tout le monde disait Pino, ne voulait pas croire à mon histoire du café. Ça n'arrive jamais, ces choses-là, sauf dans les rêves. J'ai essayé de lui expliquer qu'il ne faisait pas assez confiance aux amis qui l'entourent. Le monde est peuplé d'amis inconnus qui peuvent te permettre de trouver ton chemin. On est tous nés sur la même terre. C'est comme ça que je suis devenu acteur. J'ai rencontré un inconnu qui m'a dit « Jette-toi à l'eau, fonce !» Cette première pièce, je crois qu'elle a surtout servi à me faire prendre conscience de mes défauts. Voix, diction, corps, gestes. J'ai compris qu'il fallait que je travaille. Et c'est encore Jean-Pierre qui m'a donné la force d'apprendre, le courage de suivre régulièrement un cours d'art dramatique. J'ai été au Vieux Colombier, chez Dulin, à l'école du TNP. Je suis même passé rue Blanche au petit conservatoire pour 3 semaines seulement. Il est vrai, là, je n'ai pas tenu. L'important, c'est que quelqu'un te fasse confiance. Te donne la possibilité d'agir, de créer, la détermination d'accomplir ce que tu sens, toi, plus ou moins clairement, sans pouvoir encore l'identifier vraiment. Je suis sûr qu'en chaque homme, il y a un créateur, et que cela dépend des autres, que cette lumière éclate ou s'éteigne, qu'elle trouve ou non son chemin. Les prisons en sont pleines, de ces artistes qui ne savent pas à quoi s'employer, puisque personne ne vient leur dire « Tu en as pour 5 ans? Pour 20 ans? Vas-y mon vieux, construis !» Certains ont compris tout seuls, font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Si dérisoire que puisse apparaître leur geste au regard de l'art consacré, j'ai connu des mecs qui ramassaient toutes les allumettes qu'ils pouvaient trouver et qui en fabriquaient minutieusement, amoureusement, des caravelles fabuleuses. Les navires qui jamais ne voguèrent sur aucune mer du monde. Ce geste dit la force créatrice de l'homme et qu'elle est irrépressible. J'ai connu de grands artistes en prison qui mettaient une année pour peindre un tableau. Mais pourquoi se presser? Nul marchand n'attend leur livraison. Mon voisin avait pris 7 ans. Il avait tué sa femme. Quand je l'ai connu, il en avait déjà fait 5. Il était dans un sale état. Il ne parlait à personne, mais il est venu me voir un jour. Tu devrais essayer de peindre. Il passait plus ou moins pour fou, les mecs se méfiaient un peu de lui. On disait qu'il pleurait tout le temps, qu'il ne tiendrait pas le coup. Il a dû sortir maintenant. J'espère qu'il a tenu. Pourquoi n'essaies-tu pas? C'est difficile, non? C'était un spécialiste des fresques. Il avait peint la chapelle de la prison et il espérait que ce travail lui vaudrait une réduction de peine. Peut-être est-ce pour cela qu'on se méfiait de lui. On savait qu'il était prêt à tout pour sortir plus vite. Pour peindre, disait-il, il suffisait de sentir. La beauté? Pour créer une chose belle, revient à l'essence même de la vie, au désir. Il se nommait Raphaël. J'ai commencé à peindre. Un cirque, que j'avais vu étant enfant. Que j'ai essayé de rendre tel que les yeux de l'enfance me l'avaient fait voir. L'éclat des lumières, la violence des couleurs, précisément ce dont la prison te prive. Le cirque s'est installé près du village où nous habitions, et nos oncles nous y avaient emmenés, mon frère Maurice et moi. Je devais avoir 7 ans. Je me suis battu avec cette première toile. Je m'y suis accroché comme à une bouée. Puisque je ne pouvais plus rien voir du monde, je pouvais le peindre. J'étais moi-même ce spectateur désespéré auquel je pense souvent quand je joue au théâtre ou dans un film. Ce mec qui est entré là par hasard pour oublier un peu. Par l'acte créateur auquel tu as participé, tu t'adresses en fait à lui. Tu lui envoies une bouée qui peut-être l'aidera à se sauver. Le cirque, c'était la communion, la joie, l'insouciance. Ces sentiments qui montaient en moi quand je peignais. Comme quand nous partions avec nos oncles dans la forêt de Chêne-Liège à la recherche de champignons. Ou quand nous passions la journée sur les collines à déterrer des racines de bruyère que les oncles allaient vendre à la fabrique. Le soir, ivres d'air vif et épuisés de course, nous prenions place à la table commune, nous dévorions la soupe que les tantes avaient laissée chauffer longtemps au coin de l'âtre, nous écoutions grand-père, qui avait toujours une histoire, une légende du pays corse à raconter. Le peintre avait raison. Il suffisait de sentir. Et rien, sans doute, n'y est plus propice que la cellule du prisonnier. Coupé du monde, tu t'ouvres à l'autre monde de tes souvenirs. Tu fixes des heures durant un point loin en toi-même. Tu marches jusqu'à l'horizon de l'enfance. Ou d'une sorte de folie, si le flot des impressions anciennes te déborde. C'est la séduction et c'est le danger de la prison que d'ouvrir grandes les portes aux seuls fantasmes. Je peins à la façon des enfants. Dans ce style qu'on dit être naïf, et mon initiateur à la peinture souriait quand je lui disais ne pas savoir par où commencer un tableau. « Tu peins tout à la fois, » répondait-il. Ce que je faisais, puisqu'aussi bien les impressions et les souvenirs avec lesquels je peins éclatent tous à la fois dans ma mémoire. Sur un mauvais rectangle de contreplaqué, sur un carton grossier, avec des pinceaux et des couleurs d'écolier, faire entrer le monde dans la prison, tout à la fois. Faire de chaque image naïve une fenêtre qui troue les murs. Tout de suite, pour faire écho à ce texte de Pierre Clémenti, et en même temps ça fera une transition avec le texte suivant, un autre poème de Jacques Prévert encore et toujours, le paysage changeur, qui commence par cette phrase, de deux choses l'une. Le paysage changeur. De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Les pauvres, les travailleurs ne voient pas ces choses. Leur soleil c'est la soif, la poussière, la sueur, le goudron, et s'ils travaillent en plein soleil, le travail leur cache le soleil. Leur soleil c'est l'insolation, et le clair de lune pour les travailleurs de nuit, c'est la bronchite, la pharmacie, les emmerdements, les ennuis. Et quand le travailleur s'endort, il est bercé par l'insomnie, et quand son réveil le réveille, il trouve chaque jour devant son lit la sale gueule du travail qui ricane, qui se fout de lui. Alors il se lève, alors il se lave, et puis il sort à moitié éveillé, à moitié endormi. Il marche dans la rue, à moitié éveillé, à moitié endormi. Et il prend l'autobus, le service ouvrier, l'autobus, le chauffeur, le receveur, et tous les travailleurs à moitié réveillés, à moitié endormis. Traverse le paysage figé entre le petit jour et la nuit, le paysage de briques, de fenêtres à courant d'air, de corridors, le paysage éclipse, le paysage prison, le paysage sans air, sans lumière, sans rire, sans saison, le paysage glacé des cités ouvrières, glacé en plein été comme au cœur de l'hiver, le paysage éteint, le paysage sans rien, le paysage exploité, affamé, dévoré, escamoté, le paysage charbon, le paysage poussière, le paysage cambouis, le paysage mâche-fer, le paysage châtré, gommé, effacé, relégué, rejeté dans l'ombre, dans la grande ombre, l'ombre du capital, l'ombre du profit, sur ce paysage parfois un astre lui, un seul, le faux soleil, le soleil blême, le soleil couché, le soleil chien du capital, le vieux soleil de cuivre, le vieux soleil clairon, le vieux soleil ciboire, le vieux soleil fistule, le dégoûtant soleil du roi soleil, le soleil d'Austerlitz, le soleil de Verdun, le soleil fétiche, le soleil tricolore et incolore, l'astre des désastres, l'astre de la vacherie, l'astre de la tuerie, l'astre de la connerie, le soleil mort. Et le paysage, à moitié construit, à moitié démoli, à moitié réveillé, à moitié endormi, s'effondre dans la guerre, le malheur et l'oubli. Et puis il recommence une fois la guerre finie, il se rebâtit lui-même dans l'ombre et le capital sourit. Et un jour, le vrai soleil viendra, un vrai soleil dur, qui réveillera le paysage trop mou et les travailleurs sortiront. Ils verront alors le soleil, le vrai, le dur, le rouge soleil de la révolution. Et ils se compteront, et ils se comprendront. Et ils verront leur nombre, et ils regarderont l'ombre, et ils riront, et ils s'avanceront. Une dernière fois, le capital voudra les empêcher de rire, ils le tueront. Et ils l'enterreront dans la terre, sous le paysage de misère. Et le paysage de misère, de profit, de poussière et de charbon, ils le brûleront, ils le raseront. Et ils en fabriqueront un autre en chantant. Un paysage tout nouveau, tout beau, un vrai paysage tout vivant. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Et même, ils changeront l'hiver en printemps. Tout de suite, passer une petite lecture, encore une fois, d'un roman qui s'appelle Les Enfants Tanner, un roman de Robert Walser. C'est un roman très intéressant qui parle du travail, qui parle de la place dans le monde, qui parle du rapport entre les hommes, notamment par rapport au travail, à l'utilité de ce qu'on fait. Mais c'est plein de poésie, c'est très intéressant. Ça, c'est le début du livre que je voulais vous lire.
Un beau matin, un jeune homme ayant plutôt l'air d'un adolescent entra chez un libraire et demanda qu'on voulût bien le présenter au patron. Ce que l'on fit. Le libraire, un vieil homme très digne, dévisagea avec attention ce garçon qui se tenait devant lui un peu gêné et l'invita à parler. « Je veux être libraire, » dit le jeune homme. « C'est une envie que j'ai et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre jusqu'au bout. Je me suis toujours imaginé le commerce des livres comme quelque chose de merveilleux, un bonheur. Et il n'y a aucune raison pour que j'en sois privé plus longtemps. Regardez, monsieur, comme je suis là devant vous. Je me sens une extraordinaire aptitude à vendre des livres dans votre magasin, en vendre autant que vous pourriez souhaiter. Je suis un vendeur né, affable, poli, vif, rapide, parlant peu, décidant vite, comptant bien, attentif, honnête, mais pas non plus aussi bêtement honnête que j'en ai peut-être l'air. Je sais baisser un prix quand j'ai affaire à un pauvre diable d'étudiant. Et je sais aussi le faire monter s'il ne s'agit que de rendre service aux riches, dont je vois bien que parfois ils ne savent que faire de leur argent. Je crois, malgré mon jeune âge, posséder une certaine connaissance des hommes. D'autre part, j'aime les hommes, si différents soient-ils. Je ne me servirai donc jamais de ma connaissance des hommes pour avantager l'un plutôt que l'autre, pas plus que mes concessions au pauvre diable n'iraient jusqu'à nuire à l'intérêt de vos affaires, monsieur. En un mot, sur ma balance de vendeur, l'amour des hommes sera en parfait équilibre avec la raison commerciale, laquelle me paraît tout aussi importante et nécessaire à la vie qu'une âme aimante et généreuse. Je saurai trouver le juste milieu, soyez-en dès maintenant convaincus. Le libraire regardait le jeune homme avec une attention mêlée d'étonnement. Il semblait ne pas bien savoir si l'impression qu'il retirait de ce garçon qui était là à parler si joliment devant lui était bonne ou non. Il n'en jugeait pas bien. Cela le troublait. Et cet embarras fit qu'il demanda d'une voix douce « Pourrais-je, mon jeune ami, obtenir sur vous, en lieu approprié, quelques renseignements ?» Le jeune homme répondit « En lieu approprié ? » « Je ne sais pas ce que vous appelez un lieu approprié. Il me semblerait juste à votre place de ne pas me renseigner du tout. Auprès de qui ? Et pourquoi faire ? On vous dirait toutes sortes de choses sur moi. Mais en seriez-vous plus rassuré sur mon compte ? Que sauriez-vous de moi si on vous disait, par exemple, que je suis d'une bonne famille, que mon père est un homme honorable, mes frères des garçons sérieux et pleins d'avenir, et moi-même quelqu'un de très capable, d'un peu dissipé sans doute, mais prometteur néanmoins, de sorte qu'on pourrait dans une certaine mesure me faire confiance, etc., etc., vous ne saurez rien de moi. Et vous n'auriez aucune raison après cela d'être plus tranquille si vous deviez m'engager comme vendeur dans votre magasin. Non, monsieur. Les renseignements, en règle générale, ne valent rien du tout. Et si je puis me permettre de donner des conseils à une personne de votre âge, je vous les déconseille formellement. Parce que je sais que si j'étais d'une nature capable de vous tromper et de décevoir les espoirs que sur la foi d'information vous auriez mis en moi, je m'emploierais à vous tromper d'autant plus que ces renseignements auraient été meilleurs et n'auraient donc fait que mentir en disant du bien de moi. Non, monsieur, Si vous songez à m'employer, si vous songez à m'employer, faites preuve, s'il vous plaît, d'un peu plus de courage que la plupart des patrons auxquels j'ai eu affaire jusqu'ici, et engagez-moi tout simplement sur l'impression que je vous fais. Sans compter que les renseignements que vous pourriez recueillir sur moi seraient tous mauvais, pour dire franchement la vérité. Ah ? Et pourquoi donc ? De tous les endroits où j'ai été, poursuivit le jeune homme, je suis parti très vite. Parce que je n'ai pas eu envie de croupir à mon âge dans une étroite et stupide vie de bureau, même si les bureaux en question étaient de l'avis de tout le monde ce qu'il y avait de plus relevé dans le genre, des bureaux de banque par exemple. Cela dit, on ne m'a encore jamais ça chassé de nulle part, c'est toujours moi qui suis parti. Par pur plaisir de partir. En quittant des emplois et des postes où l'on pouvait faire carrière, et le diable sait quoi, mais qui m'aurait tué si j'étais resté. Partout où je suis passé, on a toujours regretté mon départ, blâmé ma décision. On m'a aussi prédit un sombre avenir. Mais toujours, on a eu le geste de me souhaiter bonne chance pour le reste de ma carrière. Chez vous, monsieur le libraire. Et la voix du jeune homme prit tout à coup l'accent du cœur. Je pourrais certainement tenir pendant des années. En tout cas, beaucoup de choses devraient vous convaincre de faire un essai avec moi. Le libraire dit « Votre sincérité me plaît. Je vous laisserai travailler dans ma maison à titre d'essai pendant 8 jours. Si vous êtes chez moi, si vous êtes capable, pardon, et que vous ayez vous-même envie de rester chez moi, nous pourrons en reparler ensemble. » Sur ces mots, qui semblaient en même temps congédier provisoirement le jeune demandeur d'emploi, le vieil homme appuya sur le bouton d'une sonnette électrique. Aussitôt, comme porté par le courant, un petit homme à lunettes, plutôt âgé, parut sur le seuil. « Donnez du travail à ce jeune homme !» Les lunettes firent un signe d'acquiescement. Et voilà Simon devenu garçon libraire, car il s'appelait Simon. Après que 8 jours eurent passé, Simon attendit le soir pour se présenter dans le bureau de son patron et lui tint le discours suivant. « Vous m'avez déçu. Ne faites pas un visage aussi étonné. Je quitte votre magasin aujourd'hui et je vous prie de me payer mon salaire. Laissez-moi parler jusqu'au bout, s'il vous plaît. » Je ne sais que trop bien ce que je vais vous dire. Ces 8 jours m'ont fait prendre en horreur tout le commerce des livres. S'il doit consister du matin jusqu'au soir, alors que dehors il y a le plus doux des soleils d'hiver, à rester debout devant un pupitre, à courber les chines parce que le pupitre est beaucoup trop petit pour ma taille, à écrire comme le feraient les derniers des gratte-papiers et à remplir un emploi qui ne convient pas à mon esprit. Je suis capable de bien d'autres tâches, monsieur le libraire, que celles qu'on croit pouvoir ici m'abandonner. Je pensais que je pourrais chez vous vendre des livres, servir des gens cultivés, faire ma petite révérence et dire au revoir aux clients lorsqu'ils s'apprêtent à quitter le magasin. Je pensais également que j'aurais l'occasion de jeter un œil sur les mystérieux fonctionnements du commerce des livres et d'apercevoir quelque chose du visage de ce monde à travers celui de votre magasin. Rien de tout cela. Croyez-vous donc que ma jeunesse aille si mal que j'en sois réduit à étouffer dans une boutique de livres qui ne sert à rien? Vous vous trompez également si vous croyez par exemple que le dos d'un jeune homme est fait pour être courbé. Pourquoi ne m'avez-vous pas fait donner un pupitre convenable, à ma mesure, pour que j'y sois à l'aise, assis ou debout? N'existe-t-il pas aujourd'hui le merveilleux pupitre sur le modèle américain? Quand on prétend avoir un employé, je pense qu'on doit pouvoir aussi l'accueillir. C'est ce que vous n'avez pas su faire, semble-t-il. Dieu sait ce qu'on exige d'un jeune débutant. L'ardeur au travail, l'honnêteté, la ponctualité, le tact, la sobriété, la modestie, la mesure et la persévérance. Et quoi encore? Mais a-t-on jamais songé à exiger d'un patron une vertu quelconque? Dois-je gaspiller mes forces, mon envie de travailler, le plaisir que je peux prendre à moi-même et le talent dont je me suis sent si brillamment pourvu à rester debout devant un vieux pupitre étroit et squelettique? Non. Je préférerais encore me faire soldat et vendre complètement ma liberté, n'en plus rien posséder du tout. Je n'aime pas, monsieur, être à moitié propriétaire. Plutôt faire partie de ceux qui n'ont rien du tout. Là, au moins, mon âme m'appartient encore. Vous vous dites sans doute qu'il n'est pas très convenable de s'emporter en parlant comme je fais et que ce n'est pas non plus ici l'endroit approprié pour tenir un discours. Très bien, je me tais. Payez-moi ce qui me revient et vous ne me reverrez plus jamais. Le vieux libraire était bien étonné d'entendre ce jeune homme silencieux et timide qui, durant 8 jours, avait travaillé si consciencieusement, parler à présent de cette manière. Du bureau d'à côté, 5 têtes rapprochées, d'employés et de commis, suivaient toute la scène des yeux et des oreilles. Le vieux monsieur dit « Si j'avais pu prévoir cela de vous, monsieur Simon, J'aurais réfléchi avant de vous donner du travail dans mon magasin. Vous me paraissez être d'une nature bien instable. Parce qu'un pupitre ne vous plaît pas, plus rien ne vous plaît. De quel endroit du monde venez-vous donc et est-ce que c'est plein de jeunes gens faits comme vous là-bas? Pensez un petit peu à l'effet que vous faites en ce moment sur un vieil homme comme moi. Vous ne savez sans doute vous-même pas ce que vous voulez exactement. Dans votre tête si peu mûre. Soit, je ne vous retiens pas si vous voulez me quitter. Voici votre argent. Mais à franchement parler, je n'ai pas eu de plaisir. Le libraire lui remit son compte et Simon l'empocha.
Le temps perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête, le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil, familièrement. « Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ?» Un autre poème de Prévert, qui lui va être en lien avec le texte suivant, ça va être l'œuvre de Zola. Un extrait de l'œuvre de Zola, c'est un roman de Zola, qui parle de la création artistique, qui parle de cette souffrance, de cette recherche, de cet amour. Et le poème de Prévert, c'est « Le concert n'a pas été réussi ». Le concert n'a pas été réussi. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit et je m'en vais. La recette a été mauvaise, c'est de ma faute, tous les torts sont de mon côté. J'aurais dû vous écouter, j'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît, mais je n'en ai fait qu'à ma tête et puis je me suis énervé. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archer. Les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort et cette chanson de La Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez. Moi, je prends ma casquette et puis deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé quelque part le soir au bord de la mer et qui fait ensuite la quête pour acheter de quoi manger et de quoi boire. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je m'en vais. Et donc tout de suite, l'œuvre d'Émile Zola. La nuit s'était faite. On n'apercevait plus la silhouette raidie de la mer. Il semblait que le souffle rauque de l'enfant vint des ténèbres, une détresse énorme et lointaine montant des rues. De tout l'atelier, tombé à un noir lugubre, la grande toile seule gardait une pâleur, un dernier reste du jour qui s'effaçait. On voyait, pareil à une vision agonisante, flottait la figure nue, mais sans forme précise, les jambes déjà évanouies, un bras mangé, n'ayant de net que la rondeur du ventre dont la chair luisait, couleur de lune. Le peintre s'était levé, on l'entendit jurer dans la nuit épaisse.
« Nom de Dieu, nom de Dieu, ça ne fait rien. Je vais m'y remettre. »
Christine, qui, elle aussi, avait quitté sa chaise et contre laquelle il se heurtait, l'interrompit.
« Prends garde, j'allume la lampe. »
Elle l'alluma, elle reparut très pâle, jetant vers le tableau un regard de crainte et de haine.
Et quoi?
Il ne partait pas. L'abomination recommençait. « Je vais m'y remettre, » répéta Claude. « Et il me tuera. Il tuera ma femme, mon enfant, toute la baraque, mais ce sera un chef-d'œuvre, nom de Dieu !» Christine alla se rasseoir. On revint près de Jacques, qui s'était découvert une fois encore, du tâtonnement égaré de ses petites mains. Il soufflait toujours, inerte, la tête enfoncée dans l'oreiller, pareil à un poids dont le lit craquait. En partant, Sandoz dit ses craintes. La mère semblait hébétée, le père retournait déjà devant sa toile, l'œuvre à créer, dont l'illusion passionnée combattait en lui la réalité douloureuse de son enfant, cette chair vivante de sa chair. Le lendemain matin, Claude achevait de s'habiller lorsqu'il entendit la voix effarée de Christine. Elle aussi venait de s'éveiller en sursaut, du lourd sommeil qu'il avait engourdi sur la chaise pendant qu'elle gardait le malade.
« Claude ! Claude ! Vois donc ! Il est mort !»
Il accourut, les yeux gros, trébuchant sans comprendre et répétant d'un air de profonde surprise
« Comment ? Il est mort ?»
Un instant, ils restèrent béants au-dessus du lit. Le pauvre être, sur le dos, avec sa tête trop grosse d'enfant du génie, exagéré jusqu'à l'enflure des crétins, ne paraissait pas avoir bougé depuis la veille. Seulement, sa bouche élargie, décolorée, ne soufflait plus. Et ses yeux vides s'étaient ouverts. Le père le toucha, le trouva d'un froid de glace.
C'est vrai. Il est mort.
Et leur stupeur était telle qu'un instant encore, ils demeurèrent les yeux secs, uniquement frappés de la brutalité de l'aventure, qu'ils jugeaient incroyable. Puis, les genoux cassés, Christine s'abattit devant le lit, et elle pleurait à grands sanglots, qui la secouaient toutes, les bras tordus, le front au bord du matelas. Dans ce premier moment terrible, son désespoir s'aggravait surtout d'un poignant remords, celui de ne l'avoir pas aimé assez, le pauvre enfant. Une vision rapide déroulait les jours. Chacun d'eux lui apportait un regret, des paroles mauvaises, des caresses différées, des rudesses même, parfois. Et c'était fini. Jamais plus elle ne le dédommagerait du vol qu'elle lui avait fait de son cœur. Lui qu'elle trouvait si désobéissant, il venait de trop obéir. Elle lui avait tant de fois répété quand il jouait « Tiens-toi tranquille, laisse travailler ton père !» qu'à la fin, il était sage pour longtemps. Cette idée la suffoqua. Chaque sanglot lui arrachait un cri sourd. Claude s'était mis à marcher, dans un besoin nerveux de changer de place. La face convulsée, il ne pleurait que de grosses larmes rares qu'il essuyait régulièrement, un revers de main. Et, quand il passait devant le petit cadavre, il ne pouvait s'empêcher de lui jeter un regard. Les yeux fixes, grands ouverts, semblaient exercer sur lui une puissance. D'abord, il résista. L'idée confuse se précisait, finissait par être une obsession. Il céda, enfin, alla prendre une petite toile, commença une étude de l'enfant mort. Pendant les premières minutes, ses larmes l'empêchèrent de voir, noyant tout d'un brouillard. Il continuait de les essuyer, s'entêtait d'un pinceau tremblant. Puis, le travail sécha ses paupières, assura sa main, et bientôt, il n'y eut plus là son fils glacé. Il n'y eut qu'un modèle, un sujet dont l'étrange intérêt le passionna. Ce dessin exagéré de la tête, ce ton de cire des chairs, ses yeux pareils à des trous sur le vide, tout l'excitait, le chauffait d'une flamme. Il se reculait, se complaisait, souriait vaguement à son œuvre. Lorsque Christine se releva, elle le trouva ainsi à sa besogne. Alors, reprise d'un accès de larmes, elle dit seulement « Ah, tu peux le peindre, il ne bougera plus !» Durant 5 heures, Claude travailla. Et, le surlendemain, lorsque Sandoz le ramena du cimetière après l'enterrement, il frémit de pitié et d'admiration devant la petite toile,
C'était un des bons morceaux de jadis, un chef-d'œuvre de clarté et de puissance, avec une immense tristesse en plus, la fin de tout, la vie mourant de la mort de cet enfant. Mais Sandoz, qui se récriait plein d'éloges, resta saisi d'entendre Claude lui dire « Vrai, tu aimes ça ?»« Alors tu me décides, puisque l'autre machine n'est pas prête, je vais envoyer ça au salon. »
Bonsoir, non, je la refais. Non, excusez-moi, bonjour.
Bonsoir.
Georges Benet.
En tout cas, ça fait plaisir d'être avec vous le jour au soir.
Georges Benet. Là, il est passé, il est bien le petit
oui,
Georges
Benet. Oui, c'était quoi le son?
C'était Jorge Benet, c'est un petit brésilien apparemment, un petit, je sais pas, hein, j'en sais rien, mais c'est juste que c'est une personne de type brésilienne.
D'accord.
Qui fait alors, beaucoup de bossa nova.
Je me permets de présenter parce qu'avant vous étiez pas avec moi, j'étais tout seul, alors qui es-tu?
Alors moi, qui es-tu? Qui es-tu? Je ne sais plus moi qui je suis.
Tu t'appelles pas Claude Ruiz?
Claude Ruiz, j'ai fait quelques émissions avec vous, monsieur
Cortou. C'est vrai? Ouais. Toutes, non?
Il paraît toutes, et je suis pas seul hein, apparemment aujourd'hui. Non. Tu es avec un beau jeune homme.
Voilà, exactement. Ça c'est ça, voilà. Ah, bah un bien. Beau jeune homme, ça doit s'arrêter là. Et c'est émission confinement, parce qu'une heure de texte ouais. Avec toi.
Ouais, avec moi. J'espère que ça vous a pas lassé. Mais en tout cas, le but, c'était de vous faire découvrir un petit peu des auteurs, des textes.
Bah, il y en a pas tous les goûts. Hein.
Ouais. Exactement.
Ça ne fait jamais de mal. Mais du coup, tu t'es pas présenté, David.
Ben voilà, c'est tout. Tu sors. Non, beau jeune homme, je m'étais arrêté.
Ah ouais, oui, c'est vrai qu'on a fait le tour.
C'était bien, franchement, ça se fait
bien. Faut pas lui mettre le prénom.
Non, faut pas ajouter.
C'est vrai, c'est tout gâché. On reprend à zéro.
En tout cas, on revient sur les textes parce que du coup.
Voilà, ça me faisait plaisir de partager ce texte avec vous. En fait, pour dire la vérité, j'avais pas grand chose à faire. Donc déjà, ça me faisait plaisir de m'enregistrer, et puis je me suis dit que ça pouvait servir à l'émission et à des gens, ben c'était tant mieux. C'est un peu pris dans le désordre, il n'y a absolument aucun prétexte à dire pourquoi ces textes et pas un autre, à part le goût et puis le hasard, parce que j'étais en train de lire Le Hussard sur le toit, Proust, je l'ai trouvé chez toi Claude, c'est Lucas qui l'a ramené, donc...
Oui, puis le travail sur l'oiseau, non c'est intéressant.
Prévert,
c'est
tout.
Les gars, qu'est-ce que vous respectez le confinement, c'est beau.
Bah, tu veux comment respecter le confinement?
C'est un respect du confinement.
Je l'ai trouvé chez toi.
Ah ça c'est bon ça.
Attends, je vais chez Claude, mais c'est tout. Je pars pas à la boulangère en chemin.
Attends, de toute façon on va pas parler ni polémiquer sur virus.
Non, on n'est pas là pour ça.
On n'est pas là pour ça. Par contre, après les textes, on revenait sur le côté un peu plus... comment on appelle ça, art vivant qui va se jouer bientôt, quoi, parce que là on est bloqué jusqu'au 11 mai. Mais,
c'est-à-dire, oula. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu
veux? Écoute, j'espère qu'à partir du 11 mai, outre le fait de déconfiner, de revenir dans la rue, on va pas oublier, pas que le Covid, ouais. Tu vois, mais ce qui
les
se passe
sociales.
Déjà. Les luttes sociales, c'est les luttes artistiques, on va parler un peu pour notre chapelle, tu vois, pour tous les gens qui font du spectacle, parce qu'on va en avoir besoin.
Mais surtout qu'il y a un nouveau défi dans l'art artistique, c'est qu'avec l'arrêt de tous les spectacles vivants, enfin de tous les festivals de spectacles vivants, de tous les concerts, etc., toute la on dit la profession, je déteste quand on dit ça, enfin ouais, tous les artistes, ils sont un peu dans la merde, mais financièrement, mais donc ça va les empêcher de créer, parce que pour créer, il faut avoir la tête libérée. Et...
Oui, de créer réfléchir peut-être le côté pratique.
Alors,
mais justement, je le disais dans la dernière, avant qu'on parte vraiment en confinement, je disais, les gars, vous êtes chez vous, ne vous arrêtez pas, ça continue.
Mais quand on sera plus chez nous, qu'on pourra faire des choses, mais qu'il n'y aura pas tout ça, il va y avoir des gens qui vont perdre leur statut d'intermittent.
Ben moi, je suis prof de théâtre, du coup, je peux en parler un tout petit peu vite fait rapidement. C'est que justement, voilà, bien sûr, on va être à l'arrêt. La reprise va être complètement compliquée puisqu'elle est partielle, qu'on ne sait pas ce qui va se passer exactement, que la culture, j'imagine, le théâtre, bon, vous connaissez la sauce, enfin, peu importe, en tous les cas, ça va être compliqué de reprendre, de s'emboîter, de finir les trucs à temps.
Alors,
on sait qu'il y a beaucoup de trucs qui vont couler et on espère que non, mais au-delà de ça, on espère surtout qu'il va y avoir des gens qui vont reprendre le train.
Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, justement, malgré le vu qu'on va être dans la merde, qu'il ne va pas y avoir forcément des choses, je dirais, qui peuvent apporter des cachets aux gens, des lieux, des salles, etc., de prendre en main, et là c'est un appel à tous les gens qui ont des salles, qui ne sont pas forcément des salles de spectacle, mais qui ne sont pas forcément très grandes, parce qu'il faut, pas, il faut, qu'on soit pas, faut qu'on soit moins de 50 ou 100, je ne sais pas ce sont les conditions, mais de faire des choses clandestines, pas chères.
Non,
de faire du théâtre, oui. De faire du spectacle.
Sans parler de clandestine, oui, bien sûr.
Mais non, mais quand je dis clandestine, ça veut pas dire que c'est interdit, ça veut juste dire que c'est pas un lieu fait pour.
D'accord, ok, dans ce sens-là.
Et au-delà de ça, l'histoire, c'est que, je te dis, hein, si on repart de ce 11 mai, qu'après, il y a tout un tas de conditions, parce que l'histoire du 11 mai, tout le monde...
Oui, ça va se faire.
S'est penché, non,
mais
surtout sur le côté des écoles, les enfants, etc., une reprise économique, ouais. Etc. Mais surtout ce qui est rassemblement... Même au-delà de 50, 100 personnes, même au-delà du côté aller dans un lieu spécifique dédié à la culture, au spectacle vivant, c'est à nous. Voilà, j'espère que tout le monde va avoir envie de se réapproprier déjà la rue. Alors au-delà du côté clandestin, moi je pense que s'il y a beaucoup de personnes qui font des choses en même temps dans l'espace public, à un moment donné, il n'y a plus de clandestinité, c'est juste une nécessité. Donc l'inquiétude, elle est là aussi, parce que... on a oublié plein de choses avec cette histoire de virus, de Covid. Il se passait des choses avant à Marseille. Il y avait peut-être un changement qui allait se passer même au niveau politique. Et on sait que depuis des années, ben, au niveau culturel, Marseille souffre. Quand on parle culturel, ce n'est pas forcément que la musique, que le théâtre, que ça. C'est des dizaines et des dizaines d'associations, de lieux, etc., qui font tout un tas de choses complètement variées, qui ont bien senti le passage vassal au niveau du... au niveau du laboratoire département, tu vois, qui ont bien vu quelle était la politique et quel était le public que visait cette nouvelle gouvernance.
Oui, mais il y a eu une belle surprise quand même.
Et attends, non, mais juste pour continuer là-dessus, sur le prolongement, ben oui, il y a une belle surprise. Donc, le Covid s'arrête un peu, peut-être, ce côté un peu plus social qui pouvait revenir sur Marseille. Et donc, cette forme de se réapproprier l'espace public et que ça soit aussi bien les nous, en tant que public, tu vois, que les gens qui sont... acteur directement de l'art, vraiment dans son voilà, le truc le plus large, quoi. Qu'on se rapproprie cet espace public, on a envie de le croquer, tu vois, et d'aider vraiment à ce que ça reparte et qu'on continue un petit peu sur ce que ce confinement nous a obligé à, mais tu vois, à développer ça. De la réflexion, etc. Et ben allons la partager.
Alors, des gens, je pense pas être utopiste en disant qu'il va y avoir des élans au-delà de la solidarité, juste des élans de. De partage, de création, ouais. beaucoup plus important, parce que forcément là,
les envies, en fait.
Moi j'ai dit continuez, vous serez derrière,
parce que l'envie pour l'instant elle est un petit peu gardée,
bien sûr, allez mettre les mains dans la pâte, ça va être autre chose là d'un coup, mais je pense que voilà, motivez-vous d'autant plus, nous là, dans ce qu'on est là, il va y avoir des
c'est vrai que ça va être très intéressant, parce que l'espace public va être réouvert, mais pas les bars, pas tout ça.
Exactement,
donc
c'est
il
ça
va y avoir plein de choses à faire avec, donc, au niveau du film aussi, au niveau du cinéma, filmer les rues, filmer des gens. Moi qui aime beaucoup le fait que le théâtre
inciter des gens qui n'ont pas eu justement. Peut-être que voilà, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas forcément l'audace ou pas le temps ou pas qui ont eu le temps, qui vont pouvoir se permettre de se jeter ou d'être là derrière quelqu'un alors qu'ils n'avaient jamais fait attention, quoi. Donc profitez de ça en fait.
Après, là on parle d'art, mais au final, toutes les valeurs qu'on met dans l'art qu'on veut faire après le confinement, on peut le mettre dans toutes les choses qu'on veut faire après le confinement. Déjà, prendre soin des gens, plus encore. On va le faire, j'espère, naturellement.
Peut-être montrer, tu vois, simplement qu'on est les vivants, ils ont des choses à faire. Et d'ailleurs, pour ça, on va se faire une petite coupure musicale, on va s'écouter un vieux son des Dupin. Ça s'appelle Les Vivants. Et voilà, et puis on revient juste après ça.
Travaille à faire compas. Hier avant n'y pas mourir de faim, garde t'y sort. L'homme, où est la mespresse, dis une raille de souleur. Si un peu de rousse, va sa ben, garde t'y sort. Yes, le travail est la salut. Yes, où est l'homme plus travaille, mi crébia, l'oubradi. Travaille à faire compas. Voudrais belle que sème la sienne comme toi. Nous sommes les vivants, ils ont cessé de vivre, criminalisent les vivants. Nous sommes les vivants, sommes-nous la cible, l'ennemi? Sono caricati la televisione, ma si chiamano i miei amici. Ma gli cieli sono tutti ben vestiti. L'uomo che farà la lei è Zacco che ci fa cao. L'uomo che farà la lei. Ma chi fa la lei a fare l'inganno e a sapere già che le vivano. Sono a lavorare. Noi siamo le vivane. Savoir qui nous sommes, experts du genre humain, aiguisent leurs croyances à leur convenance. Ils ont renoncé bien vite à leurs illusions, ils ont renoncé, commencé à s'armer. Nous sommes les vivants, ils ont cessé d'aimer, criminalisent les vivants. Nous sommes les vivants. We'll be right back.
Voilà les vivants, hein, les Dupin, voilà quelques années, groupe qui a évolué, transformé.
Marseillais, tu me disais.
Ouais, mélange de plein de gens, port de boucan, plein de personnes, et c'est bon, et c'était à
l'ancienne. On dit des ports de boucan ?
Un port de boue. Mais les ports de boucan, port de boucan, le star hein, aussi, l'époque ancienne, la bonne époque. Okay. Ouais, donc le Sam.
Ça fait plaisir d'avoir des musiques intenses comme ça.
Ouais. Ouais, et surtout, ça parlait juste vraiment de. On en parlait avant, un petit peu. Focaliser sur le côté art vivant et tout, ce qu'on avait besoin de se bouger, de retrouver, de se retrouver tous ensemble, quoi. Et d'aller écouter, d'aller voir des choses. Mais ce qu'ils disent, tu vois, est-ce qu'ils ont cessé d'aimer les vivants? Est-ce qu'on les criminalise? Tu vois, est-ce qu'on est la cible? Est-ce qu'on est l'ennemi? Ben voilà, dans un épisode comme on est là, tu vois, l'année dernière, les gilets jaunes, la machin et tout, si la majorité des gens ne comprennent pas qu'à un moment donné, voilà, il faut déjà prendre soin soi-même sans attendre, tu vois, que quelqu'un, un président, un gouvernement, un système, un truc prenne soin de
ça
soi.
Ça veut dire quoi pour toi être vivant?
Pour moi, ça veut dire quoi être vivant? Ben, c'est déjà juste le matin, tu vois, quand tu te lèves et tu te regardes dans la glace, tu vois déjà, tu te vois, tu te vois quel que soit ce que tu te renvoies, mais tu te vois déjà.
Tu vois, tu veux dire tu as conscience.
Voilà, tu as conscience, tu vois le truc, que ça te plaise pas, que l'humeur, mais tu vois, tu te vibres vraiment.
Tu n'es pas passif sur les choses qui sont là autour de toi.
Quoi. Ben non, tu essaies justement voilà, d'être de ce côté vivant-là, d'avoir une action. Et donc j'espère qu'à la sortie du Covid, voilà, on va tous être vivants, mais vraiment, quoi, à tous les niveaux, quoi, parce qu'il y a trop de gens, tu vois, Voilà, nous on parle de l'art aujourd'hui, de l'importance qu'ils repartent à fond, mais je les prends, il y a une vraie détresse sociale là depuis plus d'un mois.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc je pense
d'ailleurs,
que.
D'ailleurs, pensez à tous les gens qui sont.
Je pense que l'art, ça peut accompagner plein de choses, ça peut accompagner une révolution intelligente, comme c'est il faut. Ça, voilà,
déjà, être vivant, moi, ça me fait tout de suite penser à la. Biologiquement, ça veut dire que tu es vivant, et ça veut dire que là, tu es vivant, tu n'es pas mort, mais là, et de toute façon, il n'y a que l'instant.
C'est ça.
Ça me fait penser que vivant, c'est vivant maintenant déjà. C'est que pour moi vivant, un mec vivant ou une femme vivante, c'est quelqu'un qui bien sûr qu'il pense à après, bien sûr qu'il a de la mémoire, qu'il a des rêves, tout le monde. Le truc bouddhiste de dire faut penser à l'instant, ça veut pas dire faut être un espèce de truc qui est dans l'instant.
Carpe diem n'existe pas quoi.
Ça existe, mais carpe diem c'est pareil, c'est une métaphore vachement plus grande que c'est pas simple en fait. Mais ça veut juste dire on est là maintenant et on ressent maintenant quoi.
Moralité, la rosée, ça a commencé en lecture, ça finit en discussion philosophique avec un petit passage sur notre quotidien artistique et le plaisir qu'on prend à aller voir des gens. Mais voilà, sortons quoi, franchement sortons.
Sortons même s'il n'y a pas d'endroit pour sortir.
On va les recréer, c'est pas qu'avec les endroits et les moyens, mais je pense qu'à un moment il faut se réapproprier là. Le vivant, quoi. Le vivant, tout ce qu'on aime entendre, tout ce qu'on aime
voir. Alors, se réapproprier le vivant, ça peut être entendu sous un angle. Tu veux dire totalement l'inverse, en fait.
Moi, je travaille dans un abattoir de porc. Je pense qu'il faut se réapproprier le vivant.
Tu le fais tous les jours.
Toujours.
Depuis toujours, tu l'as.
L'homme est maître du vivant, de
toute façon. Tu t'es approprié. Ben non, justement, pas ce vivant-là, quoi. Mais ce vivant, on en a besoin, quoi. On a besoin, je pense que voilà, ça fait des années qu'on le dit,
et
ça
serait très bien
de petites passées, voilà. Donc on arrive à le faire en local à Marseille, quoi, parce que faut, voilà, je pense que là, un passage encore du côté obscur de la force, et là, tout ce qui s'appellera culture entre guillemets différente, indépendante, et plein d'autres mondes vont énormément souffrir.
Non, mais on en parlait la dernière fois, et l'année.
Un petit mieux, beaucoup plus
de sécurité, une nouvelle forme d'activisme, on va dire.
C'est vrai qu'il faut aller à la rencontre.
Pendant que tu es dehors, tu fais tout.
Tu te poses la question.
Tu fais tout ce raisonnement que tu viens de faire, parce qu'au moins, déjà, tu es dehors.
C'est vrai. Oui, parce donc, que voilà. Si c'est pour rester chez soi 2 mois et sortir et produire des films comme Aladdin ou Aladdin 2, là. Non, mais c'est bon, restez chez vous après. Hein.
C'est
après,
quoi qu'il a dit, Lorenzo? Il a fait quoi dans une interview? Lorenzo, on lui fait, ouais, et après le confinement, tu vas faire quoi? Il fait, je pense qu'après le confinement, je vais rester un petit peu chez moi pour réfléchir à tout ça. Je vais pas sortir de suite, je vais prendre le temps, tu vois, parce que c'est compliqué.
Qui a dit ça? J'ai pas entendu.
Lorenzo, là, le rappeur.
Allez, il
donc voilà à l'ancienne, mais bon voilà. Bah, on a arrosé le confinement et.
On a fait avec les moyens du bord. Hein. On a quoi encore? On a un peu de temps ou pas là?
On s'est dépassé.
Ouais, on a un petit peu de temps.
C'est vrai?
C'est la magie
on a encore
du direct.
5 minutes.
On va vous tenir pendant encore de longues
minutes. Non, on va envoyer un petit son final. Bah,
moi je voulais leur faire écouter un petit son.
Bah, on va mettre pause, on va se disputer, on va voir que c'est qui gagne.
Non, du tout. Attends, moi je suis pour l'équité la plus totale. Moi j'ai envoyé un son, Claude a envoyé un son. Tu te fais plaisir, Ilan, attends.
Et t'as envoyé un son toi?
Bien sûr, George Ben, les gars.
Moi je veux bien envoyer un son. Mais je sais pas ce que c'est, vous allez découvrir ça tout de suite.
« Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist, going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean?
Like, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right down while I catch play on the brick. Ooh, I made them little niggas go haywire, Taliban in this bitch. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust, Pluto sent you on the lick. Ooh. Too many convicts, they enrolled me to play in this shit. Ooh, drowned for nonsense, get old, so I'm spreading this bitch. Ooh, they had the counter light, lighting it up, nigga, anybody can get it. Ooh, I'm on a PJ, lighting it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm trying to tote that Drake or London, and it's extended. Ooh, they got a stretcher, nigga, how we gon' die for this shit? Ooh, yeah, I ride for my niggas, I lie to my bitch. Ooh, we some poor, high class niggas, made it, we rich. Yeah, I was at the band, though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a Shando, live on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, got promethazine in my blood and Percocet.
Man, I ain't gonna need front. This shit sitting in the middle of the hood. I've been serving fiends, get my racks. About to buy me some studio time, make me a song.
What?
Yeah.
For real?
I'm about to go big.
You can't spit.
For real? I got bars, fool.
Damn, you need a hard video.
If I do the video, you got to direct it. You got the vision.
Don't gas me
you
up.
You're going to be bigger than Lil X. You see how his videos be popping, nigga?
100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call him Serene. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we order the Fiji. I'm in the loop with the voo, I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face to the news. I put the puss on the shirt. After I murdered it, make me go shoot up the hearse. Cost me a quarter bird. Nigga's birthday and you a maniac, a fucking alien. How you spurging? Got that kitty cat on, having fun with that. Going Birkin. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Yeah, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger.
Hey! That was good, that was good, I'm good. I just need one more. No, I need one more. No, one more, one more, no, one more. Trust me, please, please. One more, I swear, just one more.
X. You always say X.
Exactly.
I think we need to change the lens.
Yeah, change it up.
We need a 35 mil.
35 mil, please.
What do you want to do?
Give going
again?
One. Yeah, one more time.
You're the boss. You're the boss.
All right, guys, last looks, we're going again.
Roll camera. Playback.
100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh,
I done flew one out to Spain to be in my domain, automata bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, $100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. $100,000 on the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Yeah, $100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. $100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch.
La Rosée!
Yo! La Rosée 88.4!
Toujours sur la bande FM!
Sur la bande FM!
Pourquoi ce petit son, Ilan? J'ai envie de te
Alors, pourquoi ce petit son? Life is Good, parce que j'ai découvert récemment Life is Good de Future Feat Drake. Parce qu'il m'est venu et parce que, en fait, voilà. Parce que le début du son, je sais pas, d'un couplet de Drake, il parle du taf et tout. Le clip, il te rend ça clair, en fait. Ils interprètent différents tafs, des éboueurs, des cuistots et tout. Je sais pas, ça parle du travail et de la difficulté. J'ai pas bien vraiment lu les paroles, mais.
Ouais.
Mais j'imagine que le couplet de Future parle moins de ça. C'est plus un couplet pur rap, mais bon, j'aime bien le son, hein. Voilà, c'est tout.
Ok,
un
plus. Alors. Bon. On va vous laisser sur ça, les amis.
Sur un confinement qui.
Ah non.
Non.
On va vous laisser sur une phrase de Jacques Prévert.
Allez.
Ah. Puisqu'il y a du Jacques Prévert tout le long de l'émission, quand même. On va finir sur une phrase de Jacques Prévert, j'ai vu ce matin, où il dit « Dépêchez-vous de manger sur l'herbe avant que l'herbe ne mange sur vous.
» À tchao.
Bise.
Au mois de mai.
On embrasse tous ceux qui nous embrassent.